Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
L'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Je n'ai aucune amertume et je souhaite le meilleur pour celui qui aura à conduire ce pays que j'aime tant. J'ai été heureux de participer à ce combat.
Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter.
François Fillon, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on pourrait ajouter Alain Juppé, Jean-Christophe Cambadélis, François Baroin, Manuel Valls, Cécile Duflot, Benoît Hamon, Nathalie Kosciusko-Morizet et bien d'autres. La liste des figures tombées au champ d'honneur de la politique lors de la dernière campagne présidentielle et des législatives qui ont suivi est longue, très longue. Il y a ceux qui s'accrochent encore au vieil adage qui veut qu'on meure rarement en politique. Pourtant, face au nouveau locataire de l'Elysée, il y a son armée de députés marcheurs. L'opposition peine encore à exister. Alors Emmanuel Macron est-il le seul survivant de la politique française? C'est notre débat du jour. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Cécile Lacroix-Lanoë. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice d'études chez Kantar Public, anciennement TNS Sofres, institut de sondage politique. Face à vous, Stéphane Vanige, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé de communication politique à l'université Paris-Est Créteil, co-auteur avec Cécile Alduy de Marine Le Pen, prise au mot, paru aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux d'être avec nous. Première question, j'évoquais en introduction la formule de Jean-Pierre Raffarin: en politique, tant qu'on n'est pas au cimetière, on n'est pas mort. Tout de même, est-ce que cette année 2017 a signé, selon vous, certaines mises à mort politiques définitives, Cécile Lacroix?
Lacroix-Lanoë. C'est pas grave. J'ai envie de dire déjà que ça a commencé avant 2017, ça a commencé en 2016, et effectivement, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le dégagisme, et depuis quelques mois, on voit des figures politiques qui tombent les unes après les autres. Ça a commencé à la primaire de la droite et du centre. Effectivement, il y a Alain Juppé qui était le grand favori qui n'a pas remporté la primaire. Il y a Nicolas Sarkozy qui devait, normalement, qui était en tout cas un favori pour arriver au second tour, qui a essayé un comeback, qui a également perdu, alors lui, dès le premier tour et qu'on ne voit plus, qui a disparu de la vie politique pour l'instant. François Hollande, qui n'a pas pu se représenter à l'aube de son mandat. Un peu plus anecdotique, mais quand même, Cécile Duflot chez Les Verts, qui a également perdu au premier tour de la primaire. Et puis, il y a ensuite eu Manuel Valls, le Premier ministre qui a été éliminé à la primaire de la gauche. Donc, effectivement, on a, et on l'a bien vu pendant toute la campagne, il y a eu chez les Français cette volonté de sortir les sortants et de changer effectivement de tête, de virer, j'ai envie de dire, les figures de la vie politique française qu'on voyait depuis très longtemps, parce qu'il y avait une très très forte déception, parce qu'il y avait aussi ce sentiment que les élites politiques de notre pays n'arrivaient pas à résoudre les problèmes du pays et qu'elles étaient très déconnectées de la population française.
Stéphane Vanige, ça vous semble définitif ?
Oui, parce qu'il y a un problème démographique, en fait. Si on regarde un peu de plus loin, on s'aperçoit qu'à cause de la longévité humaine, tout simplement, donc il y a une longévité politique plus forte, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une génération gâchée, c'est celle des 50 ans, au profit des 40 ans et moins, parce que les 60 ans et plus sont restés trop longtemps ou très longtemps au pouvoir. Avec, en même temps, en effet, une espèce d'obsolescence, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'hommes politiques, de gauche ou de droite, de cette génération, de l'ancienne, n'avaient plus à expliquer ce qui se passait, n'avaient plus à régler les problèmes. Et les Français, je pense, ont choisi en partie la jeunesse, mais aussi des hommes politiques qui avaient une capacité d'expliquer les choses et de les régler peut-être plus efficacement que l'ancienne génération.
Tout de même, un François Fillon, un Nicolas Sarkozy, un François Hollande, ils vous semblent susceptibles de faire leur retour un jour ?
Effectivement, vous l'avez dit, en politique, on dit souvent qu'on n'est jamais mort. François Hollande, on le voit, il fait un petit peu son retour dans les médias, il est revenu faire quelques interviews, et a priori, je pense qu'il souhaite en tout cas garder une place dans la vie politique française. Alors après, est-ce qu'il va réussir effectivement à garder une place dans la politique française, vu l'état dans lequel aujourd'hui le Parti Socialiste, notamment, c'est pas dit du tout, mais il essaie. Mais c'est vrai qu'il est pour l'instant très impopulaire chez les Français, donc et son quinquennat pour le coup a laissé un très mauvais souvenir. Les gens sont très insatisfaits de ce qu'il a fait. Je pense qu'ils n'ont pas forcément non plus compris ce qu'a voulu faire François Hollande durant son quinquennat. Et puis contrairement peut-être à ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, on a beaucoup eu le sentiment que François Hollande n'avait pas respecté son programme présidentiel, donc il avait un petit peu trahi sa parole, ce qui l'affaiblit de manière évidente. Alors après, sur les autres personnalités que vous avez citées, je pense qu'effectivement, c'est peut-être des personnalités, alors, notamment Alain Juppé. On peut aussi penser à Martine Aubry, hein, qui était aussi une grande figure du Parti Socialiste. Ça, ce sont des personnalités qui, effectivement, ont encore un poids politique, c'est-à-dire que quand elles vont prendre la parole à l'intérieur de la partie, on va les écouter. Mais c'est vrai qu'elles se sont repliées sur leur municipalité. Et aujourd'hui, elles ont effectivement peut-être peu vocation à reprendre une place sur la scène politique nationale, et elles se sont effectivement repliées sur leur municipalité, sur une gestion locale au quotidien.
Stéphane Vanich.
Oui, moi je pense qu'ils ne peuvent plus revenir. Tout simplement parce qu'on change non seulement de génération, mais de mode politique. C'est-à-dire que si on analyse la capacité d'intervention d'un Mélenchon, d'une Marine Le Pen, même si elle est un peu en difficulté, et surtout d'un Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'on rentre dans un système populiste. C'est-à-dire qu'on va être dans un système charismatique d'un côté, et en même temps, en écoutant plus ou moins le peuple, ou en mettant en scène plus ou moins le peuple, avec des exclusions ou non ou pas d'exclusion. Exclusion pour Jean-Marie Le Pen et pour Mélenchon, dans le sens où les riches sont exclus pour Mélenchon, les immigrés sont exclus pour Marine Le Pen, mais je dirais, comme ça Emmanuel Macron, est un populisme inclusif, c'est-à-dire il n'y a pas d'exclusion, c'est simplement une logique d'intervention dans l'espace public. Et d'un seul coup, ça fait vieillir énormément de monde. Manuel Valls, y compris les plus anciens, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'intervenir comme ça, parce que c'est aussi une certaine maîtrise des médias, et surtout une certaine compréhension de l'attente de la population, même si ce n'est pas rassurant démocratiquement. Certains sondages, avant l'élection présidentielle, disaient que les Français attendaient un certain gouvernement autoritaire, ou ayant de l'autorité, et aussi avec une compétence technocratique. Et Emmanuel Macron représente un peu les deux, et c'est d'où son succès à l'élection présidentielle, mais même son revirement, ce qui est assez rare, c'est un retour dans les zones positives, dans les sondages.
Est-ce que ça explique peut-être le désamour pour les partis politiques traditionnels, le Parti Socialiste, qu'on ne peut plus désormais appeler le parti de la rue Solferino, la République, pardon, le LR, les Républicains, qui est anciennement RPR, UMP, deux partis qui ont dominé tous les deux la Ve République et qui ont l'air très mal en point aujourd'hui, pour le dire gentiment?
Alors, ce qui est assez exceptionnel, moi, je trouve, c'est que les deux partis, enfin, les deux grands partis traditionnels soient aussi mal au point en même temps. Parce qu'effectivement, en général, il y avait une alternance entre la gauche et la droite. Donc, il y avait un parti qui était plutôt mal au point pendant que l'autre prenait le pouvoir. Et là, ce qui est effectivement très spécifique à cette période, c'est que les deux sont plongés dans le marasme. Alors effectivement, le Parti Socialiste, bon, c'est après le quinquennat de François Hollande qui a été très difficile, et où effectivement il y a eu aussi cette division qui est couvée depuis très longtemps entre l'aile centriste du parti et l'aile plus à gauche, et effectivement avec les frondeurs, les positions
d'Emmanuel Valls. Ce qui s'est retrouvé à la primaire d'ailleurs.
Exactement. Et pour les Républicains, pour le coup, juste avant l'élection présidentielle, tout le monde trouvait, enfin, ou avant leur primaire en tout cas, tout le monde trouvait qu'ils allaient plutôt bien, qu'il y avait des candidats qui effectivement aller prendre normalement, selon toute vraisemblance, la présidence de la République. Alors on ne savait pas exactement qui, on pensait à Alain Juppé, puis on a pensé à François Fillon. Et ce qui a tué les Républicains, pour le coup, effectivement, c'est l'affaire Fillon. Mais après la surprise quand même de la primaire, qui a bien montré qu'il y avait quelque chose aussi qui était très profond, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était cette volonté de voir un renouvellement de la vie politique et ce dégagisme qui s'est effectivement exprimé avant l'élection présidentielle.
Stéphane Vanich.
En fait, personne ne va bien. France Insoumise ou le Front National. Alors d'abord, on a les deux grands partis de gouvernement qui, en effet, perdent pied, même si les Républicains, avec 20%, c'était pas ridicule quand même comme résultat, ont l'impression d'avoir perdu son électorat, et on a une espèce de course à l'échalote avec le Front National, avec Laurent Wauquiez, qui, à mon avis, va vraiment tuer les Républicains à terme. Parce qu'ils vont pas retrouver d'électorat, typiquement, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a une espèce de macronisation des gens, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de panique à bord face à Emmanuel Macron. Au lieu de rester, je dirais, droit dans leurs bottes, y compris idéologiquement, on essaye de faire du tout azimut. Et ça se voit dans le groupe de la France Insoumise, où Jean-Luc Mélenchon ne maîtrise pas complètement ses députés, avec normalement une idéologie laïcard, et on se retrouve avec des gens islamo-gauchistes, entre guillemets, qui fait que ça met en porte-à-faux Mélenchon. Du côté Front National, le Front National n'a jamais eu un aussi bon résultat. Si bonne élection, mine de rien. Mais comme on avait l'impression, et qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient arriver au pouvoir, une espèce d'auto-intoxication interne, fait que Marine Le Pen devient délégitimée, y compris par son débat, mais y compris par ses piètres résultats qui n'ont jamais été aussi bons. Donc on s'aperçoit qu'il y a une espèce de panique à bord dans les partis politiques anciens, face à un Emmanuel Macron qui, par son style politique et par son idéologie de gauche et de droite, c'est-à-dire ils disent le tout et son contraire, en même temps essayant de faire une synthèse et en agissant de manière, je dirais, relativement efficace. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais de manière efficace en termes de gouvernance, on s'aperçoit que l'ensemble de la classe politique est en panique.
Bah d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est allé chercher dans les deux grands partis qu'on évoquait tout à l'heure, le PS et les Républicains, certaines des figures émergentes de son quinquennat. Édouard Philippe, le Premier ministre, vient de la droite. Christophe Castaner vient du Parti Socialiste. Est-ce que ce ne sont pas des personnalités qui auraient de toute façon émergé, ou est-ce qu'elles lui doivent, à lui, le fait d'être aujourd'hui au devant de la scène?
Complètement, il le doit à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est typiquement des générations qui étaient complètement bloquées par les plus vieux. Christophe Castaner n'était pas écouté au Parti Socialiste, Édouard Philippe non plus chez les Républicains. Et justement, Emmanuel Macron a permis de créer, je dirais, une offre politique différente avec des personnalités politiques qui existaient, mais qui n'avaient pas le pouvoir ou qui n'avaient même pas la capacité de s'exprimer à l'intérieur de leur parti. Et donc, du coup, il a ouvert une porte que l'on pouvait pas imaginer possible entre nous, hein, c'était pas évident, c'était un vrai pari, et ce pari a réussi par, tout simplement, à mon avis, non pas par la qualité simplement d'Emmanuel Macron et de son compagnonnage, mais aussi par l'incapacité des autres à pouvoir s'exprimer.
À faire émerger ces figures-là.
S'exprimer,
oui,
simplement,
mais
de manière moderne.
Je suis d'accord, il y a effectivement quelque chose qui relève du positionnement politique, c'est-à-dire que les figures que vous citez sont des figures qui sont au centre, c'est-à-dire qui sont soit à la droite du Parti Socialiste et qui, effectivement, avaient eu beaucoup de mal à s'exprimer, et c'est la ligne qui a perdu à la primaire de la gauche. Et de la même manière, pour la droite, effectivement, Édouard Philippe, bah, c'est quelqu'un qui est dans le camp de Juppé, donc c'est aussi quelqu'un qui représente cette ligne centriste qui s'est sentie en grande difficulté et complètement perdante et qui ne savait plus où trouver sa place chez les Républicains une fois que Alain Juppé a perdu, et de beaucoup, la primaire de la droite et du centre en novembre 2016.
Alors Stéphane Vanisch, vous évoquiez la personnalisation de la vie politique avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est dans une forme extrême comme on avait pu faire le reproche à Nicolas Sarkozy? Et si oui, quelle est la différence aujourd'hui?
La différence, c'est la stabilité, parce qu'on est dans une forme extrême de la vie politique, y compris avec les mises en scène de sa femme, la façon d'intervenir à l'Élysée, par exemple, l'anniversaire en direct à la télévision, etc. Bon, on est quand même dans une forte personnalisation et une forte présence médiatique, y compris parce que quand il a pas voulu être présent, il tombait dans les sondages. En revanche, la différence entre avec Nicolas Sarkozy, c'est la stabilité, c'est-à-dire qu'on a une parole, comment dirais-je, et une cohérence très forte dans le discours d'Emmanuel Macron. Il explique les cohérences, pourquoi il fait ceci, pour qui il fait cela, etc. Et du coup, il a une capacité d'explication de ce qui se passe en France et de ce qu'il fait en politique que n'avait pas Nicolas Sarkozy, en sachant que Nicolas Sarkozy était meilleur que les autres quand même. Il ne faut pas oublier la capacité qu'il avait. Mais il se passe quelque chose de nouveau, en effet, c'est le changement de génération, à mon avis.
Cécile Lacroix-Lanoë.
Je suis assez d'accord. Enfin, il y a deux choses qui portent effectivement Emmanuel Macron. La première chose, c'est son dynamisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait des choses. Très clairement, enfin voilà, on le voit, il est à l'action, il a entrepris des réformes dont on pensait qu'elles étaient très difficiles à faire et qu'elles étaient bloquées depuis très longtemps parce qu'il y avait des syndicats, etc. Emmanuel Macron, il y va. Enfin, notamment ce qu'il a fait sur le code du travail. Enfin, on a bien vu que c'était très compliqué avec ce qui s'était passé avec la loi El Khomri. Enfin, les syndicats sont sortis tout de suite dans la rue, ça a été très très complexe. Et lui, ben, il a fait sa réforme et personne n'est descendu dans la rue. On a l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste.
Et il y a quand même quelques manifestations.
Oui, mais enfin très très peu. Enfin, objectivement, le mouvement social n'a pas pris, n'a pas décollé. Il y a eu quelques manifestations qui ont été lancées par les syndicats. En plus, enfin effectivement, il y a eu un front qui a été désuni entre les syndicats. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a voulu faire aussi son mouvement social contre les ordonnances de la loi travail dans son coin, et ça n'a pas pris non plus. Et effectivement, Emmanuel Macron aujourd'hui, ben, il rencontre le succès dans ce qu'il fait.
Pour l'instant,
et les Français en tout cas reconnaissent qu'il agit, ça de manière très très claire. Alors après, est-ce qu'ils vont voir? Pour l'instant, ils le voient, j'ai envie de dire, en train de faire des réformes. Il reste ensuite une deuxième étape, c'est que les Français ressentent dans leur vie quotidienne des effets positifs à ces réformes. Ça, c'est pas encore le cas. Enfin, il faut certainement lancer un petit peu de temps, mais ça, c'est certainement un des grands défis pour les prochains mois et les prochaines années pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire, est-ce qu'il va réussir à convaincre les Français qu'il a vraiment changé leur vie, au-delà d'avoir changé des lois?
Est-ce qu'il y a tout de même des figures qui ont émergé dans son sillage, soit en opposition, soit dans le sillage d'Emmanuel Macron?
Bah, en opposition, c'est France Insoumise essentiellement. Dans le sillage d'Emmanuel Macron, pas vraiment. Parce que le mode même d'intervention charismatique, populiste d'Emmanuel Macron empêche de toute façon
Est-ce qu'il a des fusibles alors?
Ben non, c'est son problème. C'est-à-dire qu'il y a Édouard Philippe qui est vaguement un fusible, mais en fait, c'est le fusible d'Édouard Philippe, c'est plutôt Emmanuel Macron. Quand on regarde dans les sondages, Édouard Philippe est au-dessus des meilleurs résultats qu'Emmanuel Macron. Donc un peu comme le système Sarkozy-Fillon entre nous, on est dans une hyper-présidentialisation. La différence, c'est que Nicolas Sarkozy était énormément dans la capitalisation de son image. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas une très bonne image entre nous auprès des Français, va essayer de capitaliser sur les résultats. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait les résultats. Pour l'instant, il a la chance d'être dans une logique de croissance européenne.
Il arrive au bon moment.
Il arrive au bon moment, mais attention, François Hollande arrivait aussi au bon moment, mais il a fait la hausse des impôts a cassé la croissance française. Emmanuel Macron doit pas faire d'erreur économique de ce type. S'il le fait, il aura, à mon avis, les mêmes résultats que François Hollande. S'il le fait pas, c'est quelque chose de nouveau. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais peut-être qu'il y aura adoption et on peut imaginer Emmanuel Macron réussir. Ce n'est pas impossible.
Alors du coup, le mouvement d'Emmanuel Macron, La République en Marche, a fait des émules. Il y a eu Benoît Hamon qui a fondé son mouvement, Florian Philippot à l'extrême droite a fondé son mouvement. C'est quelque chose auquel il faut s'habituer aujourd'hui?
Alors je ne sais pas s'il faut s'habituer à ça, en tout cas, enfin, je pense qu'il y a une vraie crise.
Est-ce que c'est pérenne?
J'ai envie de dire, seul l'avenir le dira, mais en tout cas, il y a une vraie crise du parti politique traditionnel, c'est-à-dire avec le militantisme traditionnel, des grands congrès ou avec des motions, etc. Aujourd'hui, on est sur des partis politiques, et La République En Marche, La France Insoumise fonctionnent aussi sur ce modèle-là, sur des partis politiques qui sont fondés autour d'une personne, qui sont des partis politiques très charismatiques, qui sont des partis politiques qui ont une organisation très molle, très fluide, où effectivement on dit que la base doit avoir le pouvoir, que les militants doivent pouvoir faire émerger des idées, etc. Mais pour l'instant on le voit pas trop, parce qu'effectivement dans tous ces partis, tout vient quand même beaucoup du haut.
Du leader,
voilà, c'est le cas effectivement pour Benoît Hamon, pour Emmanuel Macron, pour la France Insoumise. Et ça, encore une fois, enfin, c'est quelque chose certainement qui sera le défi de ces partis politiques-là, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont réussir, au-delà de effectivement la parole de leur leader, à incarner autre chose et avoir une certaine diversité en leur sein, notamment à La République En Marche, où effectivement on a des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent de la droite, donc potentiellement qui ont des cultures politiques et des idées politiques différentes.
Justement, est-ce qu'on ne commence pas à avoir une certaine... des personnalités qui émergent un petit peu sur certains débats, par exemple sur l'accueil et l'intégration des migrants. Il y a eu cette députée de La République En Marche, son nom m'échappe malheureusement.
Mais là, ça veut tout dire. C'est-à-dire, globalement,
et qui est intervenu à l'Assemblée nationale.
C'est très compliqué. En fait, les trois principaux partis, qui sont la France Insoumise, République En Marche et le Front National, sont structurés de la même manière, avec un leader charismatique, des cadres intermédiaires qui interviennent dans l'espace public, et puis des militants qui sont à peu près invisibles. Et ce qui se passe, c'est que la parole est d'abord celle du leader. Et donc, du coup, aussitôt que le leader faille, aussitôt que le leader n'arrive pas à assumer son rôle comme Marine Le Pen, il y a une crise à l'intérieur du parti. Pour l'instant, ce n'est pas vrai pour les autres partis politiques, mais on va voir un peu comment ça évolue. Mais du coup, c'est très très compliqué pour d'autres personnes d'émerger. Et à mon avis, Florian Philippot est mort-né. Hein, tout ce qui est, quand on veut sortir d'un parti politique de ce type-là, qu'on veut créer son propre parti, ça ne peut pas exister politiquement.
C'est un peu ce qu'on disait aussi pour Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron ne sort pas d'un parti politique, il sort de rien. C'est ça qui est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne vient pas d'un courant politique.
Il sortait du ministère de François Hollande.
Il sort de la technostructure.
Il nous reste 30 secondes, laisser Cécile Lacroix-Lanoy réagir.
Ce que je disais, c'est ce qu'on a toujours dit, j'ai envie de dire, c'est une vision un peu traditionnelle de dire qu'on n'y arrive pas, mais je pense qu'effectivement, comme Emmanuel Macron a réussi, enfin, il sortait quand même de quelque part, il sortait de l'Élysée, il avait un ministère, et il a réussi à fonder un parti à partir de rien, ce qu'on pensait effectivement, enfin, beaucoup pensaient complètement impossible, et je pense qu'effectivement, beaucoup se disent aujourd'hui, pourquoi pas moi, pourquoi j'arriverais pas à faire la même chose, et objectivement, je pense que La République En Marche peut être un modèle aujourd'hui pour créer de nouveaux partis.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Cécile Lacroix-Lanoy, directrice d'études chez Kantar Public. Stéphane Vanisch, professeur associé de communication politique à l'université Paris-Est-Créteil. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Marine Le Pen, prise au mot, paru aux éditions du Seuil. Merci également à Florence Ponce, Arthur Tossou et Étienne Bertin qui étaient à la réalisation aujourd'hui.